France Musique.
Bon week-end, Nicolas Lafitte, et à très vite.
On va déborder un petit peu, le fichier se termine à 6h58 et 5 secondes. Est-ce que tu peux m'envoyer un petit peu de musique, s'il te plaît? Parfait pour le 1000. Est-ce que je peux te mettre à l'antenne?
Il y a du café?
Ouais, du café. J'arrive, j'arrive.
Bonjour à tous et tous mes vœux pour cette nouvelle année encore toute fraîche. Cette année encore, nous pénétrerons avec vous dans les coulisses de la musique à la Maison de la Radio pour vous faire partager les savoirs et les passions qui s'y cachent. Ce matin, nous rencontrerons Marc Marder, compositeur de musique de film, récompensé par le prix France Musique SACEM en 2014. Dans le reportage, nous assisterons à une répétition publique de la maîtrise de Radio France avec quelques collégiens. Puis nous retrouverons nos rendez-vous du samedi matin. À 8h20, la chronique de Marie Fauché. À 8h30, les fabuleuses archives de Jean-Yves Patte. À 8h45, l'un de vos souvenirs musicaux dans Parlez-moi de musique. Et enfin, question de cœur à la fin de l'émission. L'année commence bien, vous ne trouvez pas ?
France Musique.
Bonjour Marc Marder.
Bonjour Dominique.
Alors Marc Marder, vous êtes ici parce que l'année dernière, vous avez été lauréat du prix France Musique SACEM.
Voilà, pour le film, le musique de film, la bande de L'image manquante de Ritchie Pan.
Qu'on écoutera tout à l'heure, mais on commence peut-être par remonter un petit peu dans le passé, par une ouverture, ça semble logique.
Voilà, et c'est ma première musique professionnelle de musique de film. C'était pour Sidewalk Stories, qui est un film muet de Charles Lane à New York.
Thank you. Un extrait donc de ce disque qui illustre le film Sidewalk Stories, Mark Marder.
Voilà.
Qui était donc un film muet, que vous nous l'expliquez, qu'on peut voir.
Qui joue encore et qui est ressorti en fait après 25 ans, il y a un an ou deux ans, sur DVD, dans les cinémas.
Mark Marder, comment est-ce qu'on devient un compositeur de musique de film ? Est-ce que c'est parce qu'on aime le cinéma ou est-ce que c'est parce qu'on aime la musique ou...
C'est toujours par hasard, je crois. Et c'est, oui, on aime beaucoup le cinéma, mais c'était, pour moi, c'était jamais un grand désir. Mais j'ai rencontré quelqu'un, Charles, dans les circonstances, qui a fait Sidewalk Stories, mais je l'ai rencontré à l'université. Il m'a dit, est-ce que tu peux m'aider avec quelques musiques ? J'ai fait un petit film. Et j'ai dit oui, et puis... Mais c'est des rencontres d'hasard, je trouve.
Mais ça a déterminé quand même votre existence, Mark Marder.
Oui, mais...
Puisque 25 ans plus tard, vous écrivez toujours
oui,
des musiques de films.
Comme tout dans mon existence, en fait. C'était, je suis en France par un hasard, par une rencontre dans la rue à 2h du matin à New York.
Ça
avec un contrebassiste choses... qui m'a dit, il y a un boulot à Paris. Et j'ai dit, c'est quoi ? Il a dit, je ne sais pas, mais voilà l'adresse. Et c'était l'ensemble intercontemporain. Et j'ai passé le concours et je suis là, toujours là après 38 ans. Alors...
C'est bien l'aventure.
Oui, oui, oui.
Alors, c'est pas 38 ans, mais 25 ans plus tard, donc, vous écrivez toujours de la musique de film.
Oui,
L'image manquante, c'est donc un film qui a gagné un prix il y a deux ans, mais qu'on va enfin pouvoir voir deux ans plus tard.
C'était notre 18e collaboration avec Ritchie Pan en musique et images. Et voilà, on est sur le 20e.
Mark Marder, dans cette partition de cette pièce qui s'appelle On the Right Field Burn, vous utilisez à la fois le son très grave de la contrebasse et ce son assez grave d'ailleurs aussi de cette flûte qui n'est pas
c'est une flûte alto,
oui,
une flûte en sol.
Oui, une flûte en sol.
Oui, oui.
La contrebasse, donc, c'est votre instrument.
Voilà, je suis venu en France pour jouer la contrebasse. Et je crois que quand Riti Pan avait entendu, j'ai joué une chose pour lui à la maison un jour, quand on s'est rencontrés, il adorait cette son. J'avais commencé à vraiment faire des enregistrements avec la contrebasse. Là, dans ce morceau, il y a au moins 20, 25 contrebasses empilées. Mm-hmm. Alors, c'est un genre de façon qu'on travaille depuis des années. Il aime beaucoup cette son, ouais.
C'est peut-être aussi la contrebasse, Mark Marder, qui vous prédisposait à peut-être changer de territoire, à passer de la musique dite classique.
Oui. Le répertoire de la contrebasse,
exactement.
Oui.
C'est... Le répertoire de la contrebasse est quand même très large.
Encourage d'autres métiers dans la musique, c'est vrai. Sauf si on veut rester à jouer du Dettersdorf et du Bottesini toutes nos vies.
Ou du jazz.
Oui, mais j'ai jamais joué beaucoup de jazz. Ouais.
Ah non?
Non, un peu, mais pas, je ne suis pas jazzer.
Et de la contrebasse, vous en jouez toujours?
Bien sûr. Je joue en musique de chambre pas mal. Ouais, ouais.
La musique de chambre, ça vous plaît? L'un de vos choix, c'est d'ailleurs le Septuor opus 20 de Beethoven. Très joli menuet du Septuor opus 20 de Beethoven, dans lequel vous jouez Mark Marder à la contrebasse.
Oui, j'adorais aller à Prague, j'étais au moins 10 fois au festival.
Qu'est-ce qui vous plaît là-bas?
Ah, l'acoustique de l'abbaye et les musiciens. Saint-Michel de Coucha. Et les musiciens qui étaient formidables.
Là, vous étiez avec évidemment Michel Letièque,
Régis Pasquier, Bruno Pasquier. Arthur Noras, Radovan Vladkovic.
Oui, une belle équipe. Oui,
c'était une belle équipe.
Vous aimez, Mark Marder, associer à votre travail de création une persistance dans le métier de musicien?
Ah oui.
Vous trouvez que ça nourrit votre composition?
Ah, tout à fait. Je joue moins maintenant, mais je ne sais pas pourquoi, mais je joue moins, mais je joue toujours en musique de chambre. Et c'est vraiment une partie de soi. Si on était une fois dans la vie musicien, je crois que c'est vital
de continuer à jouer.
Parce que c'est une partie de soi qui n'existe plus si on ne joue plus, en fait.
Alors, la musique de chambre vous plaît, mais vous avez aussi beaucoup composé pour orchestre. On écrit encore pour orchestre?
Oui, mais c'est la première fois que j'écris pour orchestre en concert. Et j'ai écrit pour orchestre pour les musiques de films. Mais j'aime beaucoup. Ah oui, oui, j'aime beaucoup.
Alors, la musique suivante, c'est Mose Allison. Racontez-nous.
Ah. Je connais cette chanson depuis très très longtemps, depuis que j'ai 18 ans. C'est un ami qui m'a présenté, fait écouter Mose Allison. Et si on écoute les paroles en anglais, c'est vraiment une philosophie de vie que j'essaie
d'appliquer. Alors écoutons.
I just got here day before yesterday. It won't be long and I'll be on my way. These few days that I'll be round, please don't try to bring me down. I made my entrance on the Greyhound bus. I don't intend to cause a fuss. You like my style, that's fine with me. And if you don't, just let me be. I don't claim to be so great. I'm no pace setter, no potentate. I got some kids, I got a wife. I'm just trying to swing my way through life. So don't try to make me what I'm not. I just get by with what I've got. Live, let live, that's my advice. If you've got questions, ask me nice. First, I'm not the most of this town. I am not the toast. I'm getting older every day. I'm just trying to swing a little in my way. So don't try to make me what I'm not. I just get by with what I've got. Live, let live, that's my advice. If you've got questions, ask me now.
La morale de cette histoire, Marc Marder, c'est qu'il faut vous laisser tranquille.
Ah oui, oui, exactement.
Il faut vous laisser vivre.
Vous avez juste demandé gentiment.
Mose Allison, donc, vous avez découvert quand vous étiez plus jeune, qui vous accompagne toujours.
Ah oui, 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 tous les quelques temps, ça me revient et j'entends une chanson de lui et je suis tellement impressionné par sa façon de chanter et de jouer.
Marc Marder, quand on écrit de la musique de film, donc j'imagine qu'on est plongé dans l'image ou c'est quelque chose qui peut se faire en dehors du film. Un réalisateur peut vous donner quelques pistes et puis vous imaginez les choses. Et puis après, on essaie de voir comment ça colle.
Oui, ça dépend le projet. Classiquement, on est plongé dans le film. On est plongé dans un montage presque fini du film. Mais par exemple, pour Riti Pan, j'ai des fois pas l'image du tout.
Et alors?
Et ça marche par quelques, comme vous dites, quelques indices, quelques paroles, quelques mots qui peuvent lancer une composition.
Il faut que vous connaissiez peut-être aussi le style du metteur en scène ou
des réalisateurs. Après 20 films, oui.
Après 20 films.
Oui, mais autrement, on est vraiment lancé dans l'image, quoi.
Et en même temps, il y a souvent dans l'histoire de la musique de film des complicités comme ça entre des réalisateurs et des musiciens. Il y a des complicités historiques comme Hitchcock ou comme Kubrick. C'est parce que peut-être il y a un langage commun, l'un qui se traduit par l'image, l'autre par la musique.
Oui, que j'aime beaucoup les images d'un et il aime beaucoup ma musique. Alors on
vous parlez de la même chose, mais différemment.
Oui, exactement. Ça arrive comme ça, oui. Mm-hmm.
Et est-ce que, Marc Marder, parfois, vous utilisez de la musique classique dans vos films?
Non.
C'est-à-dire, est-ce que vous empruntez la musique des autres?
Non, jamais.
Donc, l'ouverture de la Fledermaus, de la chauve-souris, vous l'écoutez juste pour vous?
Ça c'était Alain Planès, on est devenus amis. C'est lui qui m'a fait écouter ça en arrivant en France, et ça, c'est tellement formidable comme interprétation.
Thank you.
Marc Marder, vous souriez, vous adorez cette interprétation.
Ah, de Carlos Kleiber, c'est magnifique.
C'est le Bayerische Staatsorchestra.
Ouais, il n'y a rien comme ça. Niveau rubati, timing, l'interprétation, tout, c'est tellement musical.
Vous aussi, je crois, Marc Marder, donc vous avez dans votre pièce, celle qu'on a entendue hier, puisque vous avez gagné en 2014 le prix France Musique SACEM, vous avez utilisé pas mal de cuivre. Vous aimez ça ?
Ah oui, j'aime beaucoup.
Vous en avez mis beaucoup, non ?
Et beaucoup de vent et beaucoup de cuivre, oui. 3 par pupitre, en fait.
C'est pas mal.
Oui.
On va terminer avec To a Stranger, quelque chose que vous avez écrit sur un poème de Walt Whitman.
Exactement, et c'était écrit pour une très grande amie, Robert White, qui est ténor à New York, et il joue avec Samuel Sanders, maintenant décédé, grand accompagnateur de Rostropovitch et Perlman et Bobby, Robert. Et To a Stranger, c'est très court, mais il parle des étrangers dans la rue qu'on ne connaît pas, mais on connaît quand même, qui nous touchent dans tous les cas.
Qui sont nos frères.
Voilà.
Passing stranger, you do not know how longingly I look upon you. You must be he I was seeking, or she I was seeking. It comes to me as of a dream. I have somewhere surely lived a life of joy with you. All is recalled as we flit by each other, fluid, affectionate, chaste, mature. You grew up with me, were a boy with me, or a girl with me.
C'est beau, Marc Marder. Qu'est-ce qui vous a inspiré ? Est-ce que c'est la voix du chanteur que vous connaissez, qui maintenant est un vieux monsieur, vous me disiez ?
Oui, il a presque 80 ans. Maintenant.
Mais là, il chantait, il avait...
65 ou 70 ans.
Une voix incroyablement claire.
Oui, et il chante en professionnel depuis l'âge de 6 ans à la radio new-yorkaise.
Oui, c'est ça qui est incroyable.
Avec Bing Crosby et Humphrey Bogart dans les années 40. Oui, Bobby a tout fait.
Et son père lui-même était
son
chanteur.
Son père était le ténor... masqué, argenté, de NBC, de la radio NBC à New York, des ténors masqués. Il était connu, c'était dans les années 20 et 30. Oui.
Donc c'est Robert White.
Robert White, un ténor irlandais et new-yorkais. Quoi. Oui.
C'est aussi intéressant, Marc Marder, d'écrire non pas sur l'image, mais sur un texte.
Ah oui, c'est magnifique. Moi, j'aime beaucoup.
C'est un exercice que vous pratiquez ?
Ah oui, pas mal. Mais je suis comme des... Quand quelqu'un me demande, oui.
Vos projets, Marc Marder ?
On fait un autre film, là, en ce moment, je fais un film avec Richie Pan, encore, notre 20e film. Et puis, je redirige un petit week-end, on va faire un ciné-concert qu'on a fait au Festival d'Aubagne en mois de mars. On va le refaire à Paris, au Balzac, en décembre.
Si cinéma formidable pour les amoureux et du cinéma et de la musique, puisqu'il s'y passe toujours quelque chose.
Ouais.
Merci Marc Marder.
Merci beaucoup.
Notre archive ce matin, c'était une musique extraite du coffret des 80 ans de l'Orchestre National de France. Nous écoutions la flûte enchantée, extraite du Scheherazade de Maurice Ravel. À la baguette, Leonard Bernstein. Depuis quelques années, la maîtrise de Radio France ouvre au public quelques-unes de ses répétitions auxquelles aiment assister ceux que la pratique chorale intéresse. En novembre dernier, la maîtrise, sous la direction ferme et bienveillante de Sophie Janin, répétait les Carmina Burana de Karl Orff. Et les élèves de Muriel Gauthier, professeur de musique au collège Sainte-Rosalie à Paris, étaient venus assister à une séance de travail. L'occasion, vous allez l'entendre, pour les élèves de côtoyer l'excellence de jeunes de leur âge et pour l'enseignant de réfléchir à une conception peut-être un peu différente de la transmission. Direction l'auditorium de la Maison de la Radio.
La chorale, qui est majoritairement constituée de collégiens. On est allé voir la maîtrise de Radio France, une répétition. Et je pense que tous, on a été émerveillés.
Parce que le niveau est très élevé. Dès qu'il y a une petite faute, ils doivent tout recommencer.
On n'a pas besoin de la partition pour une mise en voix, en principe. Vous le savez. Vérifiez la position des pieds. Elles sont parallèles, on n'est pas en canard, on est en parallèle avec les pieds. On secoue un petit peu les genoux. Cage thoracique large, les épaules s'embassent, on secoue un peu les fesses. On plie un petit peu les genoux comme si on était à cheval. Et puis voilà, on met les jambes droites sans pour autant bloquer les genoux. Et on rebondit un petit peu comme si on avait des ressorts sous les talons. Et on fait les petits chatons.
Ouais, chacun dans son temps, on n'a pas besoin de le faire en même temps, c'est pas ça. Ouais, voilà. Oui, très bien, ok.
Madame Gauthier organise, fait participer une chorale à partir de la 6e jusqu'à la 5e et un orchestre de la 6e à la terminale.
Vous avez de la chance.
Oui, assez.
Avec la langue, on en masse à l'intérieur de la bouche. On ouvre le regard. On vérifie que le front soit détendu, mais sans baisser la tête. Le menton est parallèle au sol.
Pour reprendre, c'est sûrement une vraie passion pour eux, parce qu'il faut vraiment être motivé pour pouvoir faire ça. Et c'est vrai qu'il doit y avoir beaucoup de travail, parce que par exemple, quand la chef d'orchestre leur demandait telle ou telle note, comme ça, ils étaient capables de la chanter. Alors que nous, je pense qu'il n'y a pas grand monde capable de faire ça, parmi nous en tout cas. Déjà, je pense qu'il faut une bonne oreille pour reproduire, parce qu'ils chantent quand même dans plusieurs langues, et ils ne connaissent probablement pas toutes ces langues. Je pense qu'il faut une belle voix surtout aussi, et beaucoup de travail.
Un, deux, à vous, go! Merci, la deuxième de cas. Écoutez ce que je vous demande de faire. Deuxième de cas. Un, deux, trois, ok. Super. C'était pas si compliqué, non?
En même temps, face à cette exigence, il y avait les élèves appliquaient tout de suite ce qui était demandé. Il y avait eu un déchiffrage en live, entre guillemets.
On a combien de dièses à l'armure? La carrure, on a 2, 4 toujours. Et on a 4 dièses. Ce qui veut dire que le ré, il est comment? Bonne réponse. S'il vous plaît, on déchiffre. C'est toujours sur un A. Vous n'avez aucune voyelle marquée, vous pouvez marquer un A.
Leur déchiffrage, c'était... Pour moi, en tout cas, ça m'a paru presque la version finale, alors que la chef d'orchestre, la chef de chœur, pardon, la reprenait tout le temps dessus.
Est-ce que les deux pieds reposent par terre? Le dos est redressé? Les PC1, vous tenez très très bien, je suis contente, mais vous savez que j'ai du mal à voir qui est en fait au chœur principal, parce qu'il y en a qui se tiennent n'importe comment pour chanter. S'il vous plaît, le sternum écrasé, c'est juste pas possible.
Marie-Noël, si elle...
Alors, Marie-Noël Mertens, c'est ça?
C'est l'assistante de la chef Sophie Janin. Et c'est deux techniques différentes de travail et d'exigence aussi.
Tu peux nous les décrire et nous dire en quoi est-ce que tu trouves que c'est différent?
Je trouve que Sophie Janin, elle est très stricte. Et Marie-Noël aussi.
Tu trouves qu'elles ont deux façons de demander des choses aux enfants?
Oui, c'est ça.
Et les résultats obtenus alors?
Moi, je trouve que c'est tous les deux, c'est un très bon résultat.
On baisse les épaules, on baisse les bras et on sent justement, pas qu'on fasse ça, mais qu'ici, on arrive à respirer dans l'ouverture des côtes. Donc on ne se sert pas du dossier de la chaise.
Moi, je fais partie de la chorale comme tous ceux qui sont ici et c'est bien de chanter parce que ça nous fait une pause dans la journée et c'est pas comme un vrai cours et c'est agréable de chanter.
Allez, c'est parti, on est la deuxième de cas et on essaye de continuer avec piano. Un, deux, trois et...
On dirait un orchestre, cette classe. Pardon. Qui voulait me parler? C'est toi, Daphné.
Moi, je trouve que il leur faut beaucoup de patience parce que...
Aux enfants ou aux chefs de chœur?
Aux enfants et aux chefs de chœur parce que comme les enfants, justement, c'est des enfants, il y a des fois des tout petits problèmes d'indiscipline et pour les enfants, il faut vite les corriger. Donc, il faut beaucoup de patience aussi parce que des fois, il faut recommencer des tas de fois et des tas de fois pour arriver à un résultat exact.
Et vous, dans le chœur, est-ce que vous ne faites pas un petit peu ça déjà?
On reprend quelques fois, mais ce n'est pas autant que ce qu'ils font parce que on n'est pas des maîtrisiens.
Grazie. Allez, c'est parti, s'il vous plaît. Mi, sol. Tiri. Un, deux, trois, et... Merci, on refait ça avec sécurité. Tout le monde chante la voix 2. Mi. C'est ça? 2, 3, et. Ah. Ah, il y a une petite carte à faire, s'il vous plaît. Une carte juste, néanmoins.
Je pense que pour... comme ils font cours le matin et chant l'après-midi, il faut beaucoup travailler sur les devoirs. Comme ils rétrécissent le temps, il faut beaucoup plus qu'ils se concentrent en cours que nous.
Bravo, la voix 1. La voix 2, s'il vous plaît, tout le monde chante la voix 2 à partir de 374. 374, tout le monde sur la voix 2. 1, 2, 1, et... 2, 3, et...
Si...
C'est quoi cet arpège-là?
Alors, j'ai trouvé que, en fait, à chaque fois qu'ils font une faute, ils lèvent tout de suite la main pour dire que c'est eux, en fait, qui ont fait la faute. Donc, j'ai trouvé que leur méthode de travail était vraiment très bien faite et que ben, c'était merveilleux.
Comme on a fait une faute, on sait où elle est et ne pas la refaire. Mm-hmm. Et comme ça, on peut avancer dans le travail.
Quel est cet accord? Oui, Adèle. Mi majeur, bonne réponse. Un voyage au Mexique. Non. Pour toi. Non, pardon, j'ai pas ces moyens, mais dommage.
Ce que je trouve incroyable surtout, c'est la puissance et en même temps la douceur de leur chant. Et ce qu'ils sont capables de rectifier comme ça, chaque petit son de nuance, justement, de pouvoir l'analyser et de pouvoir rectifier ça.
Moi, j'aime bien chanter... Et je trouve que dans la maîtrise, tout le monde, quand ils ont chanté ensemble, c'était très joli la voix. Et aussi, j'étais très contente d'avoir à la fin la signature de Sophie Jana.
Alors, jeunes gens, on va commencer avec la première intervention que vous chantez. Et attention, il s'agit donc de la troisième partie, numéro 15. Amor volat undique. Et on dit undique. Dites-le-moi, s'il vous plaît. Et...
undique.
Alors, attention, vous avez envie de dire gve. Mais moi, ce que je veux entendre, c'est un vrai K. Kve, e.
Kve.
Amor volat undique. A vous, e.
Amor volat undique.
Chanter, pour moi, ça procure une liberté qu'on chante en groupe ou en tout seul. Ça procure une liberté pour certains de la joie. Et la chorale est un bon moyen pour ceux qui aiment chanter de travailler à la musique.
Je crache un petit H après mon K. Kve, à vous. Bravo. Je préfère qu'on tourne légèrement le V vers un F plutôt que le K vers un G. Dites-moi une fois, kfe.
Kfe.
Avec un F, KF. Kfe. Et.
Kfe.
Ça, je trouve plus logique. Et. Alors là, c'est un super joli A que vous avez fait.
Moi, j'aime bien chanter en canon. Je trouve que ça donne une sonorité très belle.
Moi, je trouve que la chorale, c'est quand même bien pour l'oreille aussi, même si on n'est que débutant. Parce que, par exemple, quand on fait des canons aussi, bah, ça apprend à s'écouter les uns les autres. Parce que quand on fait des canons, c'est pas pour être en même temps, c'est pour que ce soit assez joli. Donc, du coup, faut très bien s'écouter parce que sinon, on n'entend rien et on risque d'accélérer ou de ralentir et ce sera pas joli.
Et quelque part, ce qui est important, c'est le fait que ce soit un groupe, parce que ce soit pour dans les chœurs ou dans les orchestres ou même dans les équipes de sport, tout ça. Ce qui est rigolo, c'est qu'à partir d'une seule personne, on fait un ensemble. Et certes, on travaille pour le résultat, mais il y a aussi cet esprit d'équipe quelque part.
Amor volat undique. Un et deux.
Amor volat undique.
Ça, c'est très joli. On le chante. Deux mesures avant. Attention, il va falloir qu'on attrape le départ ensemble avec une vraie attaque du son.
Amor volat undique.
Sauf que j'entends volat. Amor volat. Séparez le O du L. Encore une petite fois, s'il vous plaît. Et le A, vous n'étiez pas tous prêts. Quand est-ce que vous pouvez respirer? Vous allez claquer des doigts pour marquer que vous commencez votre prise d'air à cet endroit-là? Je pars deux mesures avant. Attention, claquez des doigts sur la dernière branche blanche. Branche? Blanche? Blanche avant de chanter. Et attention! Merci. Il y en a qui sont en train d'écrire des choses. S'il vous plaît, il va falloir que vos mains soient libres, sinon c'est pas possible. Au moins une main pour pouvoir faire ça. Deux. Et. allez. Et là, pareil, s'il vous plaît, quand on chante libidiné, en fait, c'est des i longs. Dites-moi, s'il vous plaît, libidiné.
Alors, j'ai des élèves de la 6e à la terminale, puisque j'enseigne aussi l'option musique en seconde, première et terminale. Voilà.
Donc, vous avez emmené plusieurs de vos classes à Radio France, assister à une répétition de Sophie Janin. Pourquoi assister à une répétition? Qu'est-ce qui vous semblait intéressant pour ces enfants dans le fait d'assister à une répétition?
Alors, j'ai emmené à la répétition donc, des Carmina Burana et à une autre répétition fin septembre, j'ai emmené mes élèves de la chorale. Parce qu'en fait, je trouvais que c'était pour eux une belle expérience à vivre que de voir comment des maîtrisiens se comportent en situation donc, de chant lors d'une répétition. Mes futurs choristes à moi, puisque j'ai démarré fin septembre, je voulais leur montrer la rigueur, la tenue, le calme, le silence, le respect. Et je voulais leur montrer tout ce que les maîtrisiens sont capables de faire et face à une Sophie Janin hyper rigoureuse, hyper exigeante, mais en même temps une Sophie Janin qui est une chef de chœur magnifique, est une personne lumineuse, solaire, qui vraiment obtient sans forcer, qui obtient vraiment des résultats d'une perfection redoutable. Et donc j'avais envie que moi, mes petits élèves, eh bien, sachent qu'on peut faire partie d'une chorale tout en se faisant plaisir. Comme ils le disent eux-mêmes, ils viennent, c'est un moment pas de relaxation, mais quasiment pour eux, c'est vraiment un moment de plaisir. Et donc je voulais aussi qu'ils sachent que tout ça, c'est fait avec beaucoup de travail, de rigueur et de professionnalisme. Même si nous ne sommes qu'amateurs, il faut avoir aussi cette exigence-là. Et donc j'avais envie qu'ils voient justement comment des enfants de leur âge se comportent face à des difficultés et face au plaisir de chanter aussi. Voilà. Et le chef d'établissement également, on trouve important qu'il y ait une vie musicale dans l'établissement. Donc,
qu'est-ce que ça apporte?
D'où la nécessité de l'orchestre, de la chorale. Ça apporte pour les enfants énormément parce qu'ils ne sont pas qu'élèves. Et d'ailleurs, vous voyez que ma salle de classe, il n'y a plus de table, il y a juste des pupitres et des chaises. Et ils sont ici comme des musiciens. Donc moi, je n'ai pas des élèves en face de moi, j'ai des apprentis musiciens. Et c'est une autre façon d'enseigner aussi que de faire chanter, faire de la musique, et puis donner des concerts. Et donc c'est important. Voilà.
Vous, Muriel Gauthier, donc, vous emmenez vos élèves voir comment ces jeunes maîtrisiens peuvent aller au bout d'eux-mêmes, répondre à une exigence. Vous, en tant que professeur, voir un chef de chœur comme Sophie Janin, est-ce que ça vous apporte quelque chose à vous aussi?
Alors, elle apporte énormément, et pas qu'aux professeurs de musique, parce que les autres professeurs de langue, de maths ou autres, voient aussi le rapport qu'elle a avec ses élèves. C'est pas du tout dans la tension, c'est pas du tout dans la fermeté méchante et rigoureuse, où il n'y a pas d'enjeu comme dans un cours. Et on voit qu'elle arrive à être rigoureuse, qu'elle arrive à obtenir ce qu'elle veut d'une certaine manière. Par son pouvoir de conviction aussi à elle, les enfants réagissent, sont hyper réactifs avec elle et tout de suite reproduisent ce qu'elle souhaite avoir. On a le sentiment vraiment qu'ils ont envie de lui faire plaisir très rapidement et donc ils se corrigent, ils se contrôlent. Et nous, on n'obtient pas ça en cours, il n'y a pas cette relation, je pense. Elle arrive vraiment à obtenir, à avoir une exigence et une rigueur, pas par la force, mais par son pouvoir de conviction à elle.
Les enfants lui font confiance.
Complètement. Complètement. Et ils lui reconnaissent l'autorité qu'elle a.
Eh bien, écoutez, pour un déchiffrage devant un public que vous ne connaissez pas, je vous trouve plutôt courageux. Hein. Après, vous avez fait pire dans votre parcours, déjà au niveau de la difficulté. Mais quand même, c'est bien. C'est honorable tout ça.
Elle leur demande effectivement de donner le meilleur d'eux-mêmes. Et effectivement, mes élèves ont été très, très touchés par ça. Et c'est pour ça qu'ils en ont beaucoup parlé, du fait que quand un maîtrisien se trompe, il lève la main pour signaler que c'est lui qui se trompe. On en a beaucoup parlé avec eux parce que ça, évidemment, dans le phénomène classe, quand il y en a un qui dit une bêtise ou qui se trompe, il aura tendance effectivement à, au contraire, se cacher pour pas subir des moqueries ou quoi que ce soit. Et là, non. Et ça, ça les a marqués. C'est pour ça qu'ils vous en ont autant parlé, parce qu'effectivement, la faute, c'est formateur. Là, eux, ça les a marqués, effectivement. Ils sont revenus, mais complètement enthousiasmés, complètement emballés, subjugués, que vous dire. Vous avez vu tous les mots qu'ils utilisent, ils sont
C'était merveilleux, cette expérience pour eux. Et moi, j'en reçois tous les bénéfices maintenant dans mon heure de chorale, parce qu'effectivement, la mise en voix, c'est toujours quelque chose d'un petit peu délicat quand on dirige une chorale. Et les enfants ne comprennent pas forcément pourquoi on fait telle ou telle chose. Là, ils ont vu effectivement une mise en voix draconienne, je dirais, par rapport à ce que moi je fais à la chorale. Ils comprennent mieux les choses. Donc effectivement, dans ma chorale, ça se passe mieux, je dirais, parce qu'effectivement, ils voient jusqu'où on peut avoir un niveau d'exigence. Je ne suis pas Sophie Janin, ce ne sont pas à la maîtrise non plus, mais ils voient vers quoi on peut tendre pour s'améliorer et pour faire beaucoup mieux.
1, 2, 3 2, 1, je monte.
'Obligé d'utiliser le temps de répétition de façon maximale. Et donc, peut-être pour vous aussi, c'était une découverte de voir à quoi ressemble la valse des flocons de neige de Tchaïkovski. J'espère que vous n'allez pas en trouver dehors quand vous sortez. Et un grand merci d'avoir été aussi attentif et d'être venu nous écouter aujourd'hui. Merci, cher public et maîtrisien. Est-ce qu'on peut remercier notre public d'être là, s'il vous plaît?
Merci aux jeunes collégiens du Collège Sainte-Rosalie à Paris et à leur professeur Muriel Gauthier que cette répétition semble avoir bien stimulé. La prochaine répétition publique de la maîtrise, sous la direction de Sophie Janin, aura lieu le 13 janvier autour de l'œuvre de Korngold, La ville morte. Puis la suivante, le 10 février, sur le concert du Chœur des garçons, sous la direction de Marie-Noëlle Merten, la directrice adjointe de la maîtrise de Radio France. La chronique de la Maison Ronde. Bonne année, Marie Fauché.
Bonjour Dominique, bonne année Dominique. Bonjour à tous et bonne année à tous, vous qui êtes à l'écoute, hein, 2 janvier, à l'aube ou presque.
Courageux.
Je vous souhaite, je souhaite pour nous tous en fait, que 2016 soit réjouissante, que nous sachions nous unir, nous écouter, nous respecter, que nous soyons curieux de tout. Bref, 2016 doit être heureuse. Et bien sûr, la musique ne peut être secondaire dans un tel programme, bien au contraire. Car qui réalise nos vœux, Dominique ?
Ben les fées, bien sûr.
Mais oui, et les fées sont d'exquises danseuses. Les fées sont d'exquises danseuses de Claude Debussy interprétées par Aldo Ciccolini. Le premier et le plus important de mes vœux pour vous, chers auditeurs, de l'amour. L'amour, peut-être, comme on savait le chanter au XVIIIe siècle au Portugal.
L'ensemble La Ventura London était l'interprète de E Delicia Terramor, un chant d'amour portugais du XVIIIe siècle.
Évidemment, qui dit amour, dit bonheur. On dit souvent que Schumann était un homme tourmenté. Mais si l'on en croit cette scène d'enfant, le bonheur, c'est simple, frais et lumineux. Bonheur parfait, Robert Schumann, Clara Askill au piano. Dominique, j'ai apporté...
Marie.
De quoi trinquer ?
Je ne le crois pas. Mais
et je lève mon verre, enfin là c'est la bouteille, à votre santé, à celle de toute l'équipe et à Fabrication Maison. Je l'ouvrais.
À ta santé, ce verre-ci.
Merci, merci. Merci.
À ta santé, je bois aussi.
Merci, merci, merci. À vous deux, nous buvons tous ici.
Merci, merci, merci.
Merci, merci, merci.
À notre corps très spirituel.
Et de terre.
Messieurs, tant d'accord entre vous brille qu'il semble voir une seule famille de la parenté dont goûtant la douceur, soyons-nous tous frères.
Le pouvoir, l'arche de
Moïse,
c'est si joli masque, c'est froideur.
Ta santé, extrait de La Chauve-souris de Johann Strauss fils par l'orchestre et chœur lyrique de l'ORTF dirigé par Adolphe Sibert et les voix de Eliane Manchet, Bernard Sinclair, Bernard Planté, Gérard Chapuis et Régine Vallier.
Très jolie version.
Et pour bien débuter l'année, il va sans dire qu'il vous faut vous précipiter sur votre ordinateur pour consulter et contempler le programme des prochains mois de concerts à la Maison de la Radio. Voilà de quoi passer une belle année 2016.
À votre santé, Marie, merci.
À la vôtre.
Un peu tôt pour boire, mais bon. Allez, à la semaine prochaine.
À la semaine prochaine.
Agenda. La vie reprend à Radio France comme ailleurs. Émission en public lundi 4 janvier avec Mama Africa dans Couleurs du Monde à 20h au studio 105. Une émission qui rend hommage à la terre africaine avec Fetinga d'Érythrée, Lulendo d'Angola, Magna Blikbassi et Patrick Bébet du Cameroun. Mercredi 6 janvier, émission spéciale présentée par Rebecca Manzoni de France Inter autour du livre « La Française Pop » de Christophe Comte, journaliste aux Inrocks, et Charles Barbérian, dessinateur et scénariste de bande dessinée. Et enfin, jeudi 7 janvier à 20h, l'Orchestre National invite le violoncelliste Gauthier Capuçon pour ouvrir l'année anniversaire Henri Dutilleux. Il jouera son concerto Tout un monde lointain, au programme également 500 et Brahms, sous la baguette d'Andrés Orozco Estrada.
France Musique.
Veuillez écouter un reportage d'actualité. Veuillez écouter notre concert de musique de chambre.
Le monde fabuleux des archives sonores.
Bonne année.
Quel plaisir de vous retrouver, Jean-Yves Paz.
Eh bien, c'est tout à fait partagé. Je vous souhaite plein de dynamisme, comme d'habitude, de la joie, de l'amour, de l'amitié, c'est important, et puis de la félicité intérieure. Voilà.
C'est très beau ce que vous dites, Jean-Yves.
Bon, écoutez.
Et puis, moi, je nous souhaite à nous, auditeurs, plein d'archives, plein de nouvelles archives.
Il en faut.
Il en faut. Il y en a.
Il y en a.
Bon.
Alors, je vous propose tout de suite de commencer par quelque chose d'assez léger. Cavalerie légère, hein, de Franz von Zuppe.
Ça, c'est légère.
Extrêmement connu. Dès les trois premières mesures, tout le monde est debout et gigote. C'est extrait d'une opérette viennoise de Franz von Zuppe et ça met de bonne humeur. Alors, on y va.
Allez.
Thank you.
Oulala, c'est vrai que c'est léger pour commencer
ça
la journée.
Ça donne du punch pour l'année.
C'était l'orchestre de la Société des Concerts L'Amoureux, direction Marcel Cariven, un disque pâté Paris, Théâtre des Champs-Élysées, ça veut dire que ça a été enregistré.
Ça a été enregistré au Théâtre des Champs-Élysées.
Et c'était en 1947, ce qui n'est finalement pas si ancien.
Pas si vieux, ce qui fait qu'on entend bien, évidemment,
oui, c'est assez
une belle
clair.
Prise de son. Alors, curieusement, la même année, dans un registre complètement différent, Benno Moïsevitch, un grand monsieur du piano anglais, d'origine ukrainienne, formé par un des grands élèves de Liszt, un virtuose absolu, enregistre le deuxième concerto de Saint-Saëns, écrit en 1868, qui est peut-être le concerto préféré à cette époque-là des amateurs de musique pour le piano. Alors je vous en propose le mouvement Allegro Scherzando, et vous verrez, on est aux antipodes de la cavalerie légère, c'est peut-être la deuxième partie des souhaits pour cette année nouvelle, du mystère.
Thank you.
Joli.
Joli.
Mieux que ça, même.
Même mieux que ça. Il y a un petit côté déjà qui annonce, je trouve, la comédie musicale américaine par moment.
Quoi, Saint-Saëns, vous pensez? Bah, c'est vrai que ça a été l'un des premiers à écrire une musique de film. Hein,
voilà.
Déjà.
Et puis, il y a cette espèce de joie de vivre d'un seul coup qui arrive au milieu. On disait de ce concerto qui commençait comme du Bach et qui se terminait comme du Offenbach.
Ça n'est pas un jeu de mots, ça?
Je le crains.
Oui. On peut quand même citer l'orchestre. C'était le Philharmonia Orchestra, ce qui n'est pas rien, dirigé par Basil Cameron. Et c'était un disque HMV Londres.
His Master Voice.
His Master Voice.
Yeah, indeed. Et je vous engage à aller voir le site. Il y a une très jolie image qui nous représente Dominique et moi. Comment ça?
Merci, merci Jean-Yves. À la semaine, prochaine. Et voici notre rubrique « Parlez-moi de musique » dans laquelle vous nous confiez vos souvenirs musicaux. Ce matin, nous découvrons le souvenir de Yann Coyot. J'adore Mahler, mais me croyais peu sensible à la danse. Cette soirée-là me prouva le contraire. Trois groupes qui s'animent, des hommes, uniquement, en caleçon blanc et torse nu, peignant par leur rencontre ou par un simple geste du poignet l'éclosion de la nature. Ainsi débute la troisième symphonie de Gustav Mahler, la plus longue, la plus cosmique. Inutile de regarder le paysage, il est tout entier passé dans ma symphonie, déclara Mahler à Bruno Walter qu'il avait rejoint dans le petit chalet où il composait l'été. Cette métamorphose, je l'ai revécue en sens inverse, en avril 2013 à l'Opéra Bastille. Lorsque le premier mouvement a commencé, ce fut comme un coup de poing. Cette musique que je connaissais, je la redécouvrais, je la ressentais comme jamais. Et la danse y était pour beaucoup, ou pour mieux dire, c'est elle qui me faisait voir la musique. Chaque inflexion, chaque crissement, chaque arabesque de la musique de Mahler se traduisait sur la scène par les sauts, les portées, les figures composées, dépassées, reconstruites par la grâce des danseurs. Ce premier mouvement que Mahler décrit comme l'éveil de la nature, la danse en montrait la violence dans une sorte de rituel tribal, dans ses saccades, dans les fléchissements de genoux, dans les pieds qui martèlent le sol, dans les effondrements, les sursauts, les réveils, les bras dressés pour des incantations au ciel. Quelque chose de cette musique m'apparaissait, une pulsation dans les regroupements des danseurs, une urgence dans leurs envolées, une hystérie dans les tensions de leurs membres, une sauvagerie, une transe même dans leurs rencontres et leurs contorsions. Les corps en sueur rendaient sensibles tous les tintements de clochettes, agrestes ou inquiétantes, tous les appels du corps, toutes les réminiscences de marches militaires que Mahler y a greffées. Ce fut comme un long frisson sur la peau pendant 1h30, et cela reste mon plus beau souvenir musical et artistique, parce que le temps de ce lever de rideau, j'ai vraiment fait l'expérience que la musique et la danse me faisaient vivre ce qui me dépassait et m'offrait un aperçu d'éternité. We'll be right back.
Pour illustrer le souvenir musical de Yann Coyot, nous écoutions un extrait du premier mouvement de la troisième symphonie de Gustav Mahler dans l'interprétation de l'Orchestre Philharmonique de Vienne que dirigeait Claudio Abbado. Ce sont vos souvenirs qui nourrissent cette rubrique, alors n'hésitez pas à nous envoyer vos textes que j'aime beaucoup lire à cette antenne. Question de cœur avec Sophie Janin. Sophie Janin, bonjour.
Bonjour Dominique.
Alors pour ces premiers questions de cœur de l'année 2016, je voulais savoir Sophie Janin si vous aviez un vœu concernant peut-être la pratique chorale en général, puisque vous dirigez le chœur, les adultes, les enfants, la maîtrise. Est-ce qu'il y a un souhait qui serait un souhait que vous aimeriez exprimer en ce début d'année ?
En ce début d'année, je pense que mon vœu pour le chant choral, c'est que ça soit un art réellement estimé, pratiqué, écouté. Et répandu davantage. Je pense que ça, c'est mon premier vœu.
Et pour ce faire, Sophie Janin, est-ce que vous pensez qu'il y a des choses qu'il faudrait transformer ?
Je pense qu'il va falloir continuer à encourager la discipline de chant choral, que ça soit à l'éducation nationale, dans le milieu associatif, dans les écoles de musique, les conservatoires, pour les ensembles amateurs, pour les chœurs professionnels comme nous ici à Radio France. Nous faisons ce que nous pouvons, mais c'est vrai qu'on peut pas remplacer tout ce qui est construit dès un très jeune âge, normalement.
On peut donc souhaiter, Sophie Janin, que les parents, les pères et les mères commencent à chanter très jeunes à leurs enfants ?
L'idéal, c'est qu'en effet, on grandit dans une maison où ça chante. Et je crois que les choses avancent tout de même en France sur ce point de vue. Et non seulement, je note depuis quelques années que les enfants connaissent quand même des comptines, ils connaissent des petites chansons que leurs parents leur ont chantées, qu'ils ont appris à l'école maternelle. Donc il y a quand même une pratique, on ne peut pas dire qu'il n'y en ait pas. Mais j'aimerais qu'il y ait en effet du chant présent dans toutes les occasions de la vie.
Dernière question, Sophie Janin. Est-ce que peut-être pour que ce chant choral se développe, il faut également que se développe la formation des chefs de chœur ?
Il faut que cette formation continue à se développer. Il y a des possibilités de se former en France. Je pense qu'il y a des choses qu'on peut faire et évoluer dans ce sens-là, notamment en liant les études supérieures avec la pratique sur le terrain. Car quand on sort d'une formation supérieure, ou que ça soit en Europe d'ailleurs, on est difficilement équipé tout de même d'affronter un ensemble professionnel ou même amateur. Parce que de savoir rythmer une répétition, de maîtriser la gestion humaine qui est si importante quand on est en face de chanteurs, c'est quelque chose qu'on apprend sur le terrain avec l'expérience pratique. Donc moi j'aimerais renforcer et augmenter le volume de ce que nous avons dans les collaborations, dans les partenariats avec les structures enseignantes.
Merci beaucoup Sophie Jeannin et bonne année.
Bonne année à vous Dominique.
Deux des sept réponses des ténèbres de Francis Poulenc étaient chantées par le chœur de Radio France avec le nouvel orchestre philharmonique de Radio France que dirigeait en 1992 Georges Prêtre. C'est la fin de notre émission réalisée avec la complicité de Pauline Boisaubert, de Philippe Petit et de Jean-Michel Bernot. Vous pouvez la réécouter ou la télécharger depuis le site de France Musique, francemusique.fr. À bientôt.